Bonjour, nous nous retrouvons une nouvelle fois sur les ondes de Radio Galère pour une nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre sur la politique internationale, ses méfaits, ses mécontes, ses surprises, etc. Et vous allez voir, alors je me retrouve avec plaisir avec mes complices habituels Roselyne et Habib, et puis on a le plaisir d'être avec Aïcha, qui suit nos voix, qui ne suit pas notre voix parce qu'on ne se permet pas, mais qui suit nos voix. Dans la cabine technique. Merci Aïcha.
Marhaba Aïcha.
Shukran.
Voilà. Alors, je cherchais un titre générique pour l'émission. J'allais dire « Confusion et chaos et désordre ». En gros, c'est ça qui caractérise la scène internationale. À part un certain nombre d'endroits où c'est un peu plus tranquille, j'en parlerai, mais ça fait quand même un peu plaisir. Mais d'une façon générale, et en particulier dans ce qu'on appelle grossièrement et géographiquement, c'est faux, le camp occidental, ça ne va pas très très fort. Bon, je vais donner quelques exemples. D'abord, bon, la mise sur la touche de M. Boris Johnson. Alors, on savait que le personnage était un menteur invétéré. Il ment comme il respire. Et donc, à force, une fois, deux fois, trois fois, il a fini par lasser même ses parlementaires conservateurs qui lui ont donc demandé poliment sa démission, l'ont mis en minorité une fois, et puis il a fini par donner sa démission. Alors, il n'y a pas de remplaçant. Et selon toute vraisemblance et selon toutes les traditions, vous savez qu'il n'y a pas de texte écrit qui régisse tous les rapports politiques au sein de la classe dirigeante anglaise, mais il y a des traditions, on appelle la common law. Donc selon les traditions du Parlement britannique, M. Boris Johnson sera remplacé à la tête du gouvernement par un nouveau Premier ministre conservateur, puisque les conservateurs ont la majorité au Parlement jusqu'à nouvel ordre. Ils ont une certaine avance, ils ont perdu quelques sièges ces dernières semaines dans des partiels, mais ils ont une majorité relativement confortable. Et donc, ça va suivre un processus qui est un classique donc, dans le parlementarisme anglais, c'est-à-dire que c'est les parlementaires conservateurs qui se réunissent, il y a une procédure pour ça, et qui choisissent en leur sein un candidat. Qu'il faut faire ensuite valider par le Parlement dans sa totalité. Alors là, il n'y a pas de surprise, mais il y a deux étapes. Ce qui veut dire concrètement et en termes très pratiques que M. Johnson ne sera pas remplacé avant la fin du mois de septembre ou le début du mois d'octobre. Il expédiera, comme on dit, les affaires courantes. On verra bien ce qu'il fait. Alors, c'est quand même intéressant à noter parce qu'il s'était affirmé comme d'abord le leader de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Donc un Premier ministre énergique, et puis sa prestation, disons, en tant que Premier ministre, n'a pas été très, très satisfaisante. La gestion de l'épidémie, les mensonges réitérés, les fêtes, les surprises parties, enfin tout ça a beaucoup terni son image. Il passe pour un personnage pas très sérieux, ce qu'il est manifestement pas très sérieux. Donc les conservateurs ont besoin, s'ils veulent conserver le pouvoir, s'ils en ont tous les moyens politiques, de trouver quelqu'un de plus présentable. Ça n'a pas l'air si facile que ça. D'ailleurs, il y a quelques candidats, mais on est partagé. Enfin, apparemment, ils sont partagés. Je ne participe pas à tout leur débat. Mais entre un camp très, très, très à droite et très, j'allais dire, néo-impérialiste, qui est illustré en particulier par Madame la ministre de la Défense, qui est une, j'allais dire... Non, je ne vais pas dire une brute, ça ne serait pas poli, mais enfin, très, très, très énergique, très anti-russe, très anti-chinoise et tout. C'est une candidate possible, et quelques autres, et d'autres un peu plus modérés, qui auraient un peu plus la fibre sociale que Johnson prétendait avoir, ou au moins il tenait des discours où on voyait qu'il avait l'air de comprendre que la condition de la grande majorité de la population n'était pas très satisfaisante, donc il savait le dire. Même s'il n'en tirait pas les conséquences dans ses actes et dans sa politique. Bon. Ça, c'est pour Johnson. N'en parlons plus. C'est pas passionnant. Si, quand même, un mot, parce que la position de Johnson sur l'Ukraine était une position extrémiste, c'est-à-dire qu'il voulait absolument un engagement le plus profond possible, financièrement, militairement, diplomatiquement, de la Grande-Bretagne et de l'Occident contre la Russie. Il n'était pas toujours suivi. Mais il avait mis beaucoup de son énergie dans ces affaires-là et beaucoup des services de l'activité des services secrets britanniques qui ont gardé encore quelques capacités qu'ils ont acquises sur le dos des peuples étrangers pour faire des interventions dans la politique des autres. Bon. Basta, Boris Johnson, n'en parlons plus. Un mot sur le défunt donc Premier ministre Shinzo Abe. Shinzo Abe, donc, qui était plus Premier ministre depuis quelques mois maintenant, depuis un peu plus d'un an, je crois. Donc, Premier ministre conservateur japonais, qui avait cette particularité, il en avait eu deux déjà dans l'histoire politique japonaise, c'est qu'il avait été longtemps à ce poste de Premier ministre, qui était assez rare dans les carrières de Premier ministre. Il faut savoir qu'il y a, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une grande stabilité dans les partis qui exercent le pouvoir au Japon. En gros, il n'y en a qu'un qui est toujours au pouvoir. Hein, mais de fait que c'est toujours le même parti, toujours la même majorité, toujours les mêmes orientations politiques, il renouvelle les hommes. C'était pas le cas parce que Shinzo Abe pesait lourd et il était resté, je crois, 8 ans Premier ministre, ce qui était assez rare dans la conjoncture japonaise. Il avait ceci de particulier qu'il avait un grand-père, comme nous tous, mais que son grand-père avait ceci de particulier lui-même, qu'il était un farouche défenseur de la politique impériale menée par l'empereur avant la Deuxième Guerre mondiale, et un des facteurs et un des acteurs principaux de la Deuxième Guerre mondiale, et de la politique dominatrice et envahissante du Japon sur tous ses voisins, qu'ils fussent chinois, indonésiens, malais, tout ce qu'on veut imaginer. Et donc, M. Shinzo Abe avait gardé de ça un sens, je dis poliment, de la grandeur impériale qui en faisait de lui l'expression d'un impérialisme de seconde zone, parce qu'effectivement, il ne pouvait pas élever trop le ton par rapport aux États-Unis, parce qu'il y avait quand même la présence massive des États-Unis, la constitution rédigée par MacArthur, la présence des troupes américaines sur le sol japonais, tout ça l'empêchait de dire absolument ce qu'il voulait. Mais ce qu'il pensait profondément, c'était un Japon puissant, remilitarisé, en capacité, parce qu'il les avait techniquement, de fabriquer des bombes atomiques. Il faut savoir que les stocks de plutonium du Japon qui sont sortis des centrales électriques donc civiles sont importants. Et donc, et on sait qu'il y a des scientifiques et des ingénieurs japonais qui maîtrisent ce genre de domaine. Donc il avançait petit à petit, et ce qu'il n'a pas arrêté de faire pendant tous ses mandats de premier ministre, il avançait vers un Japon remilitarisé et maître de son avenir. Alors, il ne pouvait pas aller jusqu'au bout parce que les États-Unis ne voulaient pas, manifestement. Ils voulaient bien que le Japon soit soumis, fasse peur à la Chine, mette de l'argent dans la mécanique impériale et guerrière, mais il ne fallait pas que le Japon soit plus puissant qu'il n'était. Et ça renvoie au, ce qu'il faut rappeler, le rôle du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le Japon est un nouvel impérialisme plus petit que le précédent, qui passe des accords avec le Reich hitlérien et avec Mussolini pour détruire l'URSS, c'est ça le but de la manœuvre, et pour grignoter autant que la plus grande partie possible du territoire de la Chine, qui n'est pas encore la Chine populaire. C'est ça le Japon à l'œuvre, et les voisins du Japon, je pense en particulier aux Chinois, bien entendu, et aux Coréens en particulier, ont un très très mauvais souvenir de l'impérialisme japonais. Alors, nous, on ne s'en est pas rendu compte, on n'a pas vécu, mais tout ce qu'on sait sur les exactions, sur les crimes, sur les horreurs commises par l'armée japonaise dans les territoires qu'elle occupait, ne dépasse pas, mais se situe au même niveau de violence et de barbarie que la violence nazie. Bon. Ça fait partie de l'histoire japonaise, et à aucun moment, M. Shinzo Abe n'avait remis en cause ce passé-là. Il essayait de dire que, après tout, c'était un grand pays. C'était, jusqu'à l'émergence de la Chine, la seconde économie du monde. Il est maintenant au troisième rang. Ça reste une grande économie, un pays qui est quand même plus peuplé et plus avancé industriellement, même que l'Allemagne, qui est juste derrière. Et donc, il était dans cette contradiction-là, c'est-à-dire avec une aspiration à un pouvoir très, très large, très dominant, au moins sur sa partie de la planète, et en même temps, le grand frère, si j'ose dire, qui était là pour lui dire... Ne va pas trop loin, je ne veux pas, tu es quand même sous ma botte, hein, militaire, financière, etc. C'était ça les relations de Shinzo. Alors son assassinat, à ce que j'ai pu lire, on ne connaît pas trop les motivations de l'assassin, mais il se peut qu'il existe au Japon des personnes qui n'appréciaient pas cette position néo-impérialiste, violente, qui était celle qu'il mettait en avant, et il le faisait d'une façon extrêmement spectaculaire, puisque chaque année, il se rendait très officiellement et très ostensiblement à un pèlerinage dans un sanctuaire qui est le sanctuaire des grands chefs militaires de l'Empire japonais de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il allait, non pas verser une larme, mais il allait honorer la mémoire des grands combattants, et j'allais dire des grands meurtriers de Chinois, de Coréens, surtout dans les zones asiatiques. Et il n'y en a pas qu'en Chine et en Corée, il y en avait partout où l'armée japonaise avait fait des siennes. Mmh. Si vous voulez avoir une idée, alors il y a peu de ressources cinématographiques sur l'activité guerrière du Japon. Le seul film qui en parle un peu, même si c'est d'une façon anecdotique, c'est Le pont sur la rivière Kwai. Si vous l'avez en tête ou si vous n'avez jamais vu le voir, où on voit effectivement l'armée japonaise qui occupe donc ce qui s'appelait à l'époque le Siam, donc la Thaïlande actuelle, et on voit très très bien la brutalité du comportement des soldats et des officiers japonais par rapport aux troupes qu'ils ont en face de chez eux. Voilà pour Shinzo Abe, donc personnage ambigu, mais très à l'image des ambiguïtés de ce Japon qui se voudrait une grande puissance et qui ne peut pas l'être. Parce que, souvenons-nous, et ça reste vrai, et ça marque au moins dans la population japonaise, à défaut de faire réfléchir et de donner d'autres sentiments à des dirigeants genre Abe, c'est un pays qui a reçu la bombe atomique. Et ça, ça reste dans la conscience populaire profonde, parce que ça a marqué leur destin. Mais on en est là pour Shinzo Abe. Autre personnage dont je voulais parler, qui lui est toujours là, il s'agit d'Emmanuel Macron. Emmanuel, eh oui. Alors Aïcha se tape le front. Oui, catastrophe. Bon. Alors Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été pris la main dans un sac. Pas dans le sac, dans un des sacs dans lesquels il a mis la main. Parce qu'on ne devient pas président de la République, il faut payer une campagne électorale, il faut avoir des soutiens, je dis poliment ça, dans les grands journaux, dans les chaînes de télévision et tout. Donc il faut quand même avoir un minimum d'argent dans sa poche. Bon. D'où est venu cet argent ? Et qui lui a facilité la tâche ? Ben, on sait qu'il a occupé différents postes, secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'économie. Et on vient de découvrir, et ce n'est pas un média français qui l'a fait, c'est le quotidien britannique The Guardian, qui est un quotidien, donc l'équivalent gros centre-gauche, modèle Le Monde, si vous voulez, pour vous faire une idée, qui a dévoilé que M. Emmanuel Macron, du temps où il était à Bercy, comme on dit, au ministère de l'économie, avait favorisé l'implantation de Uber sur le marché français et même sur le marché européen, puisque quand on y était, il n'était pas le seul à le faire, mais il fallait que l'Europe se plie à cette nouvelle discipline du transport donc individuel de passagers pour mettre un terme à l'espèce de monopole qui existait dans beaucoup de pays. Les taxis ont partout été organisés dans des corporations qui avaient des règles, qui se partageaient le travail et tout. Et Uber était effectivement une façon de casser ce système de corporation des taxis qui était en vigueur dans beaucoup de pays du monde. Bon.
Comme Abidjan, ça existe.
Voilà, c'est ça. Et donc Uber était destiné à ça, clairement dans l'esprit de ses fondateurs, c'était de dire il faut casser ce monopole et gagner de l'argent. Quitte à mettre au chômage et à rendre la vie difficile aux chauffeurs de taxi, ça leur apprendra. Alors évidemment, vous connaissez, pas de licence, pas de ci, pas de ça, pas de contrôle des tarifs et tout. Bon, tout ça, alors, Emmanuel Macron a été pris la main dans ce sac-là, très clairement, puisque le Guardian a dit, ben voilà, il a reçu les dirigeants de Uber à plusieurs reprises, et il leur a dit, je vais vous arranger les affaires. En ce sens, M. Macron était tout à fait dans la position du candidat de Washington. C'est-à-dire favoriser les entreprises des États-Unis qui voulaient investir sur le sol européen et qui trouvaient que les législations européennes, pas que la française, mais en particulier cette législation sociale française, irrite beaucoup le capitalisme libéral aux États-Unis. Et donc, il fallait essayer de trouver des biais pour casser des modes de gestion des travailleurs dans les pays européens, en particulier en France. Et donc, Uber était effectivement un cas très intéressant pour casser une corporation qui avait pignon sur rue et qui rendait des services qu'on lui connaît. Alors voilà M. Macron pris là-dedans. Ça n'a pas l'air de l'avoir affecté outre mesure, mais simplement, c'est une image qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que quand il a été dans ses postes qui allaient le conduire à l'Élysée, il s'est servi de tous les moyens dont il avait à sa disposition, y compris des influences, parce que quand il a fait ça, je ne pense pas, et le Guardian n'en fait pas mention, qu'il ait eu l'accord du président de la République de l'époque, ni du Premier ministre. Il a fait ça pour son propre bénéfice, c'est-à-dire pour être bien vu par les néolibéraux aux États-Unis, et pour au moment où la campagne présidentielle démarrerait, il n'est pas d'obstacles politiques qui viennent de ce côté-là du monde. Et donc il était, on peut l'appeler, je n'hésite pas à le dire, le candidat le plus favorable et le mieux vu aux États-Unis et à Washington, ce qui a quand même facilité la tâche.
Et il continue.
Et il continue. Mais il continue. Alors, ça c'est Macron, mais il continue, mais il commence à se dire que quand même, il y a des vrais problèmes. C'est pour là que je parlais de chaos. Le chaos, c'est en particulier dans l'Union européenne où on ne sait plus du tout où on va. Alors vous avez des manifestations un peu partout contre la vie chère, la hausse des carburants, la hausse des alimentations. Et puis vous avez des manifestations inattendues. Je pense aux Pays-Bas en particulier, où il y a eu une manifestation de paysans. Alors les paysans aux Pays-Bas, ça représente quand même une couche importante qui exporte beaucoup, qui fabrique, vous le savez, des légumes sous serre, des tulipes, etc. En veux-tu, en voilà, etc. Bon. Tout ça, c'est les Pays-Bas. Mais c'est donc encore une partie des travailleurs néerlandais qui est très, très organisée et qui donne beaucoup au commerce extérieur et à la puissance exportatrice des Pays-Bas. Bon, alors ils se sont fâchés parce que d'une part, effectivement, le gasoil a augmenté, mais parce que le gouvernement, alors on a affaire, et c'est pour ça que je parle de chaos, des espèces de tensions contradictoires et ingérables entre les visions à long terme, il faut arrêter par exemple de polluer en utilisant du carburant, et puis en même temps d'autres visions où on fait exactement le contraire, où on détaxe le carburant, où on dit allez-y, observez-vous, n'hésitez pas. Et donc ces contradictions entre le court terme immédiat et le long terme, qui serait une politique écologique raisonnable, de gestion des ressources, éclate à longueur de temps. Et là, ce qui a mis le feu, j'allais dire, à la paysannerie hollandaise, c'est le fait que le ministère en charge de l'agriculture a décidé de leur interdire l'utilisation des engrais azotés. Alors, effectivement, les engrais azotés génèrent une pollution d'oxyde d'azote. Hein, et puis, voilà, tous les nitrates, hein, vous le savez, on en a parlé à ce micro. Et donc, tout d'un coup, alors ça, c'est une mesure de long terme. C'est-à-dire, il faudrait, effectivement, progressivement, limiter l'usage des engrais azotés pour essayer de passer à l'agrobiologie. Hein. Bon, mais on ne dit pas ça à un paysan un jour pour lui dire « Demain matin, tu passes à l'agrobiologie. » Il y a des processus longs. Alors, quand vous lui dites ça, on va interdire les engrais azotés, tu vas faire de l'agriculture biologique qui n'a pas les moyens et que dans le même temps, le prix du gasoil a augmenté, le paysan, il voit rouge, il se fâche. Hein, il dit, mais c'est incohérent, où va-t-on ? Hein ? Alors ça, c'est un sentiment qui est assez répandu dans l'Union européenne. Vous allez voir que c'est pas le seul cas. Ce qui est un peu nouveau quand même, c'est que ces paysans qui manifestaient avec leurs tracteurs, ça c'est une vieille tradition de la manifestation paysanne, se sont vus opposer des forces de police qui ont dégainé leurs armes pendant la manifestation. Et ça, c'est assez nouveau aux Pays-Bas. Alors après, on a dit qu'il y avait une provocation des agriculteurs, etc., qui n'a pas du tout été démontrée. Et donc, effectivement, on a eu affaire à des forces de l'ordre un peu dépassées, le pistolet à la main, braquant, sans tirer, heureusement. Enfin, ils n'ont pas tiré sur des hommes, ils ont tiré sur des véhicules, braquant les manifestants. Là, on se dit qu'il y a quelque chose qui commence à grincer dans les mécanismes européens pour que des agents de police hein, se mettent à sortir leurs armes par rapport à une manifestation de protestation pour raison économique. Il ne s'agit pas du tout, ils ne sont pas allés défenestrer le ministre, ils n'ont rien cassé, etc. Ils manifestaient pour défendre leurs intérêts. Là, on a des signes, soit je dis, de chaos, de désordre, des choses qui ne vont pas fort. Bon. C'est un premier cas. Parlons maintenant des incertitudes sur le gaz russe, parce qu'évidemment, on n'échappe pas aux incertitudes sur le gaz russe. Alors, vous savez, je rappelle que la Russie fournit du gaz à l'ouest de l'Europe par différents moyens, par différents tuyaux, des tuyaux qui passent par le sud, donc par l'Ukraine, et qui continuent un peu plus bas vers l'Europe de l'ouest, et puis le fameux tuyau qui passe dans la mer Baltique, qui est donc ce qu'on appelle le Nord Stream numéro 1, qui devait être doublé, et il est d'ailleurs physiquement doublé, il existe, on n'attend plus que la mise ouverture des robinets, qui s'appelle Nord Stream 2. Alors Nord Stream 1, ça fonctionne depuis une dizaine d'années à peu près, et il y a besoin, en ce moment même où je vous parle, il y a eu besoin d'opérations de maintenance, d'entretien, de groupes de pompes. Parce que vous imaginez que le gaz ne fait pas presque 2000 km en avançant à sa propre vitesse. Il faut un peu le pousser quand même vers l'avant pour qu'il arrive sur la côte allemande et qu'ensuite il arrive d'ailleurs ailleurs, puisque une partie de ce gaz qui passe par Nord Stream 1 est acheté par Engie. Et il y en a une partie, petite relativement, la France est moins dépendante que l'Allemagne, mais il y en a une partie qui arrive en France aussi, et aux Pays-Bas et en Belgique.
55% en Allemagne, 17% en France.
Voilà. Engie a une part dans les fournitures du Nord Stream. Bon, voilà, on le sait. Heureusement, la France n'est pas dépendante que de ce gaz-là, beaucoup moins que l'Allemagne. Bon, alors il se passe que... Alors, c'est là qu'on voit bien qu'il y a chaos et désordre. Une partie de l'opinion est montée contre la Russie. Bon, on a vu comment, mais en disant pourquoi ils décident de faire des opérations de maintenance. Ben, c'est normal, c'est une installation qui a 10 ans, les pompes travaillent jour et nuit pendant toute l'année, etc. Et donc il y a un moment où effectivement il faut les réparer. Et puis on apprend quand même que les pompes qui avaient été fournies par Siemens, constructeur allemand, n'avait pas été réparé, c'est-à-dire que Siemens, qui devait livrer des pompes remises en état, ne l'avait pas fait. Et que, in fine, c'est le Canada qui vient de fournir les pompes avariées, parce que finalement, le Canada s'est dit il vaut mieux quand même que le gaz arrive plutôt que le gaz arrête de couler dans le Nord Stream. Mais ça, alors, il y a une espèce de jeu qui est en cours, c'est-à-dire que Gazprom, donc la société russe, dit « je fais mes opérations d'entretien, je les fais en été parce que c'est là que les consommations sont les moindres, et donc c'est là que je risque moins de perturber le marché », et tout le monde s'affole à Bruxelles, à Berlin, etc., en disant « ils ne vont pas rétablir le gaz ». D'où, et ça produit le discours médiatique en disant « on va vers des rationnements d'hiver ». Vous aurez froid cet hiver à cause de Poutine. Hein, on voit bien la propagande telle qu'elle fonctionne. Poutine va vous faire geler dans vos maisons tout l'hiver. Bon, on n'en est pas là, mais effectivement, la Russie joue peut-être avec les nerfs en disant « mais moi, je vais vous montrer », et c'est une leçon qu'elle a déjà donnée et qu'elle va réitérer, que quand je signe un contrat, moi, je ne m'assieds pas dessus. Quand je signe un contrat, je le respecte. Bon, vous savez, on l'a déjà fait, qu'il y a des opérations de maintenance, on les fait, mais on a signé à long terme et on continue sur nos engagements. On pourrait, ça serait encore mieux s'il y avait le Nord Stream 2, parce qu'on pourrait arrêter le premier pour entretenir le deuxième. Bon, mais ça, vous ne l'avez pas voulu, c'est de votre faute. Mais on apprend que du matériel qui était destiné à mettre en service le Nord Stream 2 serait aussi livré par les Canadiens. Donc on aurait une espèce d'assouplissement qui viendrait du côté canadien, parce que les Allemands sont très très mal venus, c'est-à-dire ils ont pris des positions extrêmement radicales contre la Russie en faveur de l'Ukraine, et donc admettre tout d'un coup qu'ils se sont trompés, qu'ils font un virage à 180 degrés pour dire « allez, envoyez votre gaz et on n'en parle plus », c'est un peu délicat, ils ont du temps un peu long à la digestion. Mais ce que ça instruit, c'est qu'en fait, on ne peut pas, sur une planète unifiée, mondialisée, construire des rapports normaux entre les pays si on ne tient pas compte du long terme. C'est-à-dire que si un pays a besoin du gaz d'un autre, on met en place un tuyau et on lui en fournit sur la base de contrats de 20, 30, 40 ans, des prix qu'on peut réviser d'un commun accord, etc. On ne peut pas fonctionner en disant « ah, ça monte ici, ça baisse là ». Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ça amène exactement à cette confusion qu'il y a à la Commission européenne et au gouvernement allemand. Vous allez avoir des rationnements cet hiver, vous ne pourrez pas vous chauffer. Hein. Ça, c'est de la politique à courte vue. C'est de la cuisine politique de bas étage. Alors qu'en fait, la leçon que ça donne, et ce n'est pas une leçon simplement que donne la Russie et Gazprom, la leçon que ça donne, c'est que sur cette planète mondialisée où tout le monde commerce avec tout le monde, on ne peut pas du jour au lendemain ne pas respecter sa signature. Je vous ai dit ça hier, je dis le contraire le matin. C'est intenable. On ne peut pas vivre ensemble si on n'a pas de parole du tout. Bon. Et donc, le cas du gaz est très, très... Et c'est du business tout bête, parce qu'après, on peut parler du prix, on peut parler technique et tout. Mais le long terme, c'est la satisfaction des besoins de l'un pour satisfaire les besoins de l'autre. Le court terme, c'est, tout d'un coup, je suis fâché, je vais taper à une autre porte, etc.
Bon. De toute façon, ils ne peuvent pas le faire. Hein, ouais.
Oui, en plus.
Ils sont obligés de dialoguer avec la Russie.
Tout à fait.
L'Europe, vraiment, s'ils ne dialoguent pas, s'ils n'assouplissent pas ces positions, eh ben, ça sera une
tout
catastrophe.
Tout à fait. Et donc, oui, on va rencontrer ça. Parce que si je parlais de chaos tout à l'heure, c'est bien qu'effectivement, on a le système de prise de décision dans l'Union européenne est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est nombreux. Il faut trouver la majorité, voire l'unanimité dans beaucoup de cas. Et puis, on a des gouvernements qui sont un peu indifférents sur la question du gaz russe. Je pense que ça touche moins les Portugais que les Italiens ou les Allemands. Et donc, on a de la peine à se mettre d'accord. On a d'autant plus de peine que, manifestement, dirigée par Mme von der Leyen, la Commission joue son rôle à elle toute seule. C'est-à-dire, elle se comporte un peu comme un espèce de gouvernement de l'Europe, ce qu'elle n'est pas. Hein, ce n'est jamais qu'une technocratie, rien de plus. Mais elle a profité de sa position et de la difficulté des autres de s'exprimer pour en arriver là. Donc on a vraiment une Europe qui est fragile. On en a un autre exemple à travers l'histoire du gaz qui arrive en Hongrie. Alors vous savez, là on est aussi dans les contradictions de l'Union européenne. La Hongrie reçoit du gaz russe. Et elle n'a pas été sanctionnée, puisqu'elle n'a pas sanctionné la Russie. Et donc, la Russie continue à livrer du gaz. Et alors, Bruxelles et Mme von der Leyen viennent voir le Premier ministre hongrois, ou lui téléphone, lui disant « Tu devrais renvoyer une partie de ton gaz chez tes voisins à qui le gaz est coupé. » Réponse des Hongrois en disant mais ils avaient qu'à faire comme nous, pas se fâcher avec la Russie et ils auraient leur gaz. C'est pas moi qui vais revendre mon gaz à ceux qui se sont fâchés, qui savaient qu'ils ne l'auraient plus. On est, voilà tout le chaos dans lequel fonctionne l'Union européenne. Et je vous dis, tant qu'on n'a pas une vision plus sereine des rapports à long terme, ça ne veut pas dire qu'on est des amis, ça ne veut pas dire. Mais on a des intérêts communs, il y en a qui ont besoin de gaz et il y en a qui en ont, et bien on trouve un terrain d'entente. Et, dans la mesure en plus où c'est le principal producteur mondial qui est sur la scène, bon, eh bien, on trouve ce terrain d'entente, ou bien on est soumis à ces aléas, à ces vaticines, à ces errements bizarres, et il y en aura d'autres. Et dans les errements, je voulais m'arrêter sur un errement dont il n'a pas beaucoup été question. Et je vous lis. C'est une dépêche, donc en version française, de l'agence de presse Chine Nouvelle. Écoutez bien, c'est du samedi 9 juillet. Écoutez bien le titre. La Chine et la France conviennent de renforcer leur collaboration stratégique et coopération pratique. D'où ça sort ? C'est la surprise du jour. C'est dans la presse chinoise, version française, parce qu'il y a tout dans la presse chinoise officielle. On apprend que la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna, qui se trouvait par hasard à Bali, en Indonésie. Alors, il y a une explication, c'est qu'en fait, peut-être elle était en promenade, je ne pense pas, mais elle a quand même des responsabilités. Mais vous savez qu'à Bali se tiendra donc à l'automne le sommet du G20. Ouais. Donc, je pense que ça faisait partie des travaux préparatoires. C'est effectivement l'Indonésie qui a été chargée, puisqu'elle est membre du G20, d'organiser la réunion annuelle à Bali. Et donc, elle se trouvait en Indonésie et... Par le plus grand des hasards, alors ça c'est moi qui le dis, par le plus grand des hasards, il se trouve qu'elle rencontre à Bali le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi. Et qu'est-ce qu'ils disent tous les deux ? Alors c'est M. Wang Yi qui le dit, mais il n'a pas été démenti par le Quai d'Orsay. M. Wang Yi a déclaré que la Chine et la France avaient connu un développement durable de leurs liens bilatéraux sous la direction stratégique de leur chef d'État, ce qui a non seulement bénéficié aux deux peuples, mais également apporter la stabilité à ce monde volatile. Écoutez, alors M. Wang Yi, en une phrase, il dit, bon, à Macron, alors tu t'agites, tu fais l'imbécile avec Uber, etc. Les choses sérieuses, c'est avec nous que ça se passe, parce que nous, quand on signe quelque chose, on s'y tient, on respecte nos engagements, on accueille vos investisseurs, on investit en France pas mal, d'ailleurs il y a des usines chinoises et tout, il y a des rapports commerciaux, il y a des bateaux chinois, il y a des bateaux français, etc. Bon, tout ça, et il dit simplement, la direction stratégique de leur chef d'État, c'est-à-dire, c'est toute l'habileté de la diplomatie chinoise. M. Wang Yi dit, mais au fond, à bien le regarder, M. Emmanuel Macron, il a le sens de l'État. Alors, il fait beaucoup d'agitations inutiles, hein, il fait beaucoup d'erreurs, mais la Chine ne va pas se permettre de ricaner sur l'histoire Uber. La Chine dit non, M. Macron a compris qu'il avait besoin de relations stables avec la Chine populaire. Mm-hmm. Bon. Et ça, et je ne doute pas qu'il l'ait compris. Le problème, c'est que, comme il dit trois fois les choses différentes dans la journée, et qu'il veut donner le personnage, je suis à la fois pro-américain, mais je ne suis pas anti-chinois, je ne suis pas vraiment anti-russe, parce que je dis qu'il ne faut pas les humilier et tout, il y a un moment donné où il se fait des crocs en jambes tout seul, il se casse la figure parce qu'il a trop dit de choses contradictoires. Mais là, on voit bien que M. Wang Yi a mis le doigt là où il fallait qu'il le mette.
Il suit Johnson.
Et il assure. La Chine attache de l'importance à la confiance mutuelle et à l'amitié entre les deux parties, appréciant grandement et soutenant fermement la France dans la préservation de l'autonomie stratégique, a-t-il indiqué en marge de la réunion des chefs de la diplomatie du G20. Alors voyez comme c'est habile, dire, on sait que vous êtes autonome, vous êtes dans l'OTAN même, mais on sait quand même que vous êtes attaché à votre indépendance stratégique puisque vous avez l'arme atomique comme nous. Et donc, tout ça est très, très bien vu, puis ça ramène M. Macron à dire « Soyez réaliste, faites votre boulot de chef d'État avec une vision, pas simplement à 24 heures et au coup et un truc à dire à la télévision. Réfléchissez à la position de votre pays. » Sous-entendu, et ils sont gentils, vous en êtes probablement capable, mais on va vous guider, on va vous aider. Dans ce sens-là, vous nous trouverez toujours comme des partenaires solides et sérieux. Voilà ce que dit le ministre des Affaires étrangères chinois. Alors ça m'amène à vous dire un mot de cette Madame Colonna, qui a été donc le contact entre M. Wang Yi, avec M. Wang Yi, et puis pendant, elle a vu les autres ministres du G20 qui étaient là pour préparer la rencontre de Bali. Alors qui est Madame Catherine Colonna? Parce que ce que je viens de dire est expliqué en partie par ce qu'elle est, elle. Madame Catherine Colonna, à la différence de M. Macron, à la différence de M. Le Drian, à la différence de quelques autres, est une diplomate de profession. C'est-à-dire qu'à la sortie de l'ENA, elle a choisi les affaires étrangères. Elle a eu de très très beaux postes tout de suite, pas tout à fait par hasard. Donc un poste à l'ambassade à Washington, non pas ambassadrice, parce qu'on n'est pas ambassadeur quand on sort de l'ENA. Et puis le poste de Washington est un des postes... Les postes à Washington, à l'ambassade, sont les postes les plus convoités, parce qu'ils sont la garantie d'une carrière très brillante au Quai d'Orsay. Et donc elle commence par là, c'est-à-dire elle commence au meilleur niveau. Et puis, elle occupe différents postes ici et là. Et ces dernières années, elle avait été successivement ambassadeur de France à Rome. Et puis, elle était en poste jusqu'à ce que Mme Borne la prenne dans son gouvernement à Londres. Donc, les grosses ambassades, c'est tout à fait clair, Italie et Angleterre et Washington. Elle est passée par l'UNESCO, elle a fait différentes choses. Bon. Mais qui est Mme Colonna? Et d'où sort-elle? Bon, outre le fait que donc, c'est une diplomate de profession, ce que n'était pas Le Drian. Ça s'est vu à certains. Et donc, elle a un passé politique. C'est-à-dire qu'elle a fait une belle carrière en tant que fonctionnaire des affaires étrangères, mais elle a aussi été pendant plusieurs années la porte-parole du gouvernement français de M. Chirac. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut considérer que Mme Colonna est une chiracienne. Elle a fait partie du cabinet d'Alain Juppé. Elle a fait partie des cabinets sous Dominique de Villepin, Premier ministre. C'est-à-dire qu'on peut considérer...
Elle n'était pas en Géorgie aussi? Non.
Non, non.
Non, c'est pas elle.
Non, c'est pas elle. Non, non. Et donc, on a affaire à quelqu'un qui est issu de cette diplomatie, alors j'allais dire post-gaulliste, qui n'est pas tout à fait la diplomatie gaulliste telle qu'on l'imagine ou telle qu'on peut s'en souvenir, mais c'est quand même pas du tout la diplomatie « je me couche devant les Américains ». C'est une diplomatie un peu différente. Hein. C'est ce que soulignent les Chinois en disant « autonomie stratégique ». Et donc, c'est avec cette formation-là, et c'est pour ça, à mon sens, qu'elle fait partie, qu'elle a été choisie dans le gouvernement de Mme Borne pour montrer qu'il y a une autre politique qui est possible à travers ce gouvernement, qui, par ailleurs, ne fera pas que des miracles dans la politique intérieure qui suivra. Mais je voulais insister là-dessus parce qu'on en parle très, très peu. Et en fait, ça veut dire que M. Macron, et c'est là, c'est la confusion, c'est-à-dire qu'il a un pied dans un sens, un pied dans l'autre, il a une jambe qui va en avant, une jambe qui va en arrière. Hein. Donc un peu d'Europe, un peu d'anti-russe, mais un peu de pro-chinois. Tout ça est très très compliqué. J'admire, je vais dire non, je n'admire pas, mais c'est un numéro de funambule politique sur lequel il s'exerce. Mais là, manifestement, et Mme Colonna et son passé politique chiracien, donc néo-gaulliste ou post-gaulliste, pèsent dans ce sens-là. C'est tout à fait clair. Je voulais m'arrêter là-dessus parce que ça a été peu repris, parce que c'est gênant. C'est-à-dire que M. Macron, il a profité du fait que le 30 juin au soir, il était déchargé de sa tâche de président tournant de l'Union européenne. Et il a commencé, c'est à ça que sert Mme Colonna, à reprendre un peu ses marques pour faire un peu de sa politique à lui. Et quand il voit ce qui se passe effectivement à Berlin, et quand il voit ce qui se passe à Londres, il vaut mieux essayer de réfléchir. Alors, je ne sais pas s'il le fera, mais je postule que là, il a commencé à comprendre qu'il y avait des bêtises à ne pas faire s'il voulait ne pas finir son deuxième mandat, par exemple, dans une catastrophe. Il faut savoir que, et d'une façon générale, je fais pas ce que je dis, c'est pas du pro-chinois par plaisir. C'est reconnu par tout le monde, par la Banque des règlements internationaux, par le FMI, par la Banque mondiale. Si la Chine n'avait pas maintenu un niveau de croissance économique pendant toute la période du Covid et pendant même la fin des années post-2008, enfin crise des subprimes, l'économie mondiale se serait effondrée. C'est la Chine qui est le moteur de l'économie mondiale. Alors, elle fait des taux de croissance entre 5 et 10% pendant que les autres se promènent à 1 et 2. Mais c'est elle qui fait marcher la mécanique mondiale. Il faut savoir ça. Et il faut s'en rendre compte. Alors, s'il y a des gens intelligents dans le gouvernement de la France qui s'en rendent compte, tant mieux. Mais c'est la réalité et rien d'autre. Voilà ce que je voulais dire pour un peu recadrer. Alors on va faire une petite interruption musicale. Je vais vous laisser entendre un morceau très connu des Rolling Stones qui s'appelle Out of Time. Alors un petit mot sur le titre. Out of Time, ça veut dire en dehors du temps. Ouais. Et j'allais dire, on peut le traduire de façon plus argotique, c'est « out of time », c'est « n'a rien compris », à côté de ses pompes, enfin, c'est un peu ça.
Hein.
Voilà, out. Et donc ça correspondait bien à cette période de chaos où les chefs d'État, de gouvernement font un peu n'importe quoi, disent tout et le contraire, etc. Parce qu'ils se sont mis dans des situations impossibles en disant « lui je le veux pas, lui je travaille pas avec lui, lui je le reprends, lui je le sanctionne, etc. » tout ça ne va nulle part, si ce n'est au chaos. On écoute les Rolling Stones.
Don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there.
Voilà, après donc Out of Time, vous allez voir qu'il y en a qui ne sont pas out of time, mais qui sont dans deux univers à la fois, quitte à se contredire. Il s'agit du ministre des Armées, du même Emmanuel Macron, qui, vous le savez, s'appelle maintenant Sébastien Lecornu. Mm-hmm. Alors Sébastien Lecornu, il était dans le cabinet précédent, puisqu'il y était déjà, il était ministre des Territoires d'Outre-mer, je ne sais pas si c'était le titre exact. Non, il y a un problème ? Oui, voilà. Il était donc dans le gouvernement et donc il est monté d'un cran puisqu'il a remplacé Mme Parly au ministère des Armées. Et donc c'est un des deux ministres sur lesquels le président de la République a la main. C'est-à-dire que la défense et les affaires diplomatiques sont du ressort, on le sait, du président de la République prioritairement. Et qu'est-ce qu'il est allé faire ? Alors il n'a pas voyagé. Il voyagera bien entendu puisqu'il est là pour ça. Mais il a été reçu donc le 7 juillet, la semaine dernière, par la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses députés de la commission de la défense à l'Assemblée nationale ? Il leur a dit à peu près le contraire... à peu près le contraire de ce que Mme Colonna a dit aux Chinois à Bali. Alors, pas à peu près le contraire, mais il explique la position. Nous avons des intérêts directs, car avec 1,6 million de Français vivant dans cette zone, nous sommes riverains et nous devons réaffirmer notre souveraineté, notamment dans notre zone économique exclusive, en luttant contre la pêche illégale. Il y a aussi les enjeux et les défis que pose la République populaire de Chine, qui suscite un certain nombre d'inquiétudes auprès des différents États de la région. Alors vous savez, d'un côté, Mme Colonna a dit ça, et lui, au Parlement, il dit le contraire. Hein. On est inquiet. Hein. Bon, ça fait partie...
C'est du macronisme.
C'est le macronisme dans toute sa splendeur. Alors, le ministre, je lis la dépêche, relevait l'importance d'avoir retrouvé un agenda normalisé avec l'Australie. Alors ça, je décrypte. Agenda normalisé avec l'Australie, ça veut dire que, conformément au droit du commerce tel qu'il était, l'Australie a dédommagé la France pour ne pas lui avoir acheté ses sous-marins. C'était normal, c'était prévu. Rupture abusive de contrat, ça s'appelle. Bon, alors, ça n'est pas allé devant une justice internationale. C'était prévu dans le contrat. Donc l'Australie, alors, je n'ai pas le chiffre en tête, puis il a circulé, l'Australie a payé un dédit pour avoir manqué à sa parole, ne pas avoir respecté son contrat. Bon, on sait que l'Australie était sous une telle pression des États-Unis qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Donc, on a rétabli les rapports avec la France, avec l'Australie, et donc même, il semble que même nos marchands d'armes, à nouveau, aient peut-être des possibilités de vendre quelques petites choses en Australie pour faire oublier le camouflet des sous-marins. Ça c'est la mise en scène générale. Mais ce que M. Lecornu a développé, il a la présence française dans l'axe Indo-Pacifique. Donc vous voyez, on est en plein dans le langage d'Américain, là. L'axe Indo-Pacifique, c'est le langage initié par Obama quand il était au pouvoir. C'est le retournement de la diplomatie des États-Unis vers le Pacifique. Donc la France est absolument là-dedans. Et c'est les alliances qui sont derrière l'AUKUS et qui sont derrière toute la politique étrangère de Biden et même de Trump, c'était à première la même chose, alliance avec le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, en essayant d'attirer l'Inde, mais c'est un peu plus difficile parce que l'Inde, c'est un peu gros, c'est un peu difficile à manipuler. Mais enfin, donc se situer clairement dans la politique américaine dans la zone Pacifique. Vous voyez, donc on peut à la fois dire une chose à Bali et dire à peu près le contraire à l'Assemblée nationale, selon qu'on est le ministre de l'un ou de l'autre. Et d'ailleurs, il insiste, il y a des grands pays qui regardent la France, la Malaisie, où on a vendu des armes et des sous-marins, l'Indonésie, où on espère en vendre, l'Inde, qui sont des pays émergents et importants. Cet axe possède également des enjeux de sécurité avec la Corée du Nord en particulier, comme si la Corée du Nord menaçait l'Australie ou la Malaisie. Hein, on voit. Et je pense très fort à nos alliés de Corée du Sud et du Japon. Vous voyez qu'il a fait vraiment à peu près la totalité du discours que Macron aurait pu faire à un autre moment. Hein, c'est assez grandiose de ce côté-là. Et donc, mais il est là pour. Alors, il est là clairement pour dire il y a des troupes françaises. Il a même envoyé, on a même envoyé des rafales en Polynésie. Alors, vous voyez, on a donc envoyé, je pense, alors on n'a pas dit s'ils avaient des armes nucléaires, des bombes atomiques à bord, mais pourquoi pas, hein. Donc le jeu, ainsi, dans la mesure où Mme Colonna dit « Allez, avec la Chine, on se comprend bien », on montre aussi qu'on peut faire circuler des bombes atomiques françaises pas très très loin de la Chine, histoire de montrer que quand même, on n'est pas n'importe qui. Voilà. Et il ajoute « Il y a là des enjeux de souveraineté importants ». Voilà. Donc voilà ce que... Alors, le plus beau... Alors, Voilà, alors j'achève là-dessus parce que c'est trop bien. Monsieur Lecornu a vivement encensé le service militaire adapté dans les Outre-mer. Le plus beau des exemples que la République a pu donner au territoire d'Outre-mer, ce sont les troupes de marine qui encadrent des jeunes ultramarins volontaires qui apprennent un métier, passent leur permis de conduire. Le SMA dans l'Outre-mer, c'est un modèle qui cartonne, se félicite le ministre. Voilà. Donc vous voyez que dans les populations avec des difficultés financières, économiques, etc., d'emploi, comme il peut y en avoir à La Réunion, on le sait, comme il peut y en avoir à Mayotte, etc., bon, on essaye d'embrigader une partie de la jeunesse dans un service militaire adapté, où on ne veut pas non pas leur apprendre à tirer au fusil mitrailleur, mais au moins passer leur permis de conduire, mais au moins l'armée française montre qu'elle sert à quelque chose. Vous voyez, comme quoi donc la politique coloniale, néocoloniale, se poursuit au même rythme et même avec une accentuation, parce que ce que j'ai pu voir de l'activité de M. Lecornu et de ses discours du temps où il était ministre de l'Outre-mer, c'était vraiment un sarkozien pur sucre. Alors c'est là que ça devient drôle, parce que Madame Colonna, c'est une devillepiniste pur sucre, hein, chiracienne, et quant à Lecornu, c'est un sarkozien pur sucre. Donc on a une espèce de cocktail dans le gouvernement de Madame Borne. Je ne sais pas comment elle va gérer ça. Alors, à mon avis, elle ne va rien gérer du tout, parce que là, c'est un cocktail qui sera géré depuis l'Élysée. Il faut savoir que les cocktails, quelquefois, ça explose, on verra bien, mais ce n'est pas nous qui déciderons. Voilà. Je voulais insister là-dessus parce que c'est assez cocasse. Au fond, donc, les éclairs de lucidité de Mme Colonna en disant « il faut bien qu'on se comprenne avec la Chine parce qu'il y a quand même des relations » et puis « il pèse lourd hein. ». Et en même temps, l'affirmation néocoloniale dans le Pacifique en disant « nos amis les Japonais, nos amis les Coréens du Sud et nos vilains adversaires Coréens du Nord qui sont très 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 méchants hein. ». Vous voyez comme on est bien aligné sur la politique de Washington. Bon, ben on n'est pas aligné sur grand-chose en vérité, parce que la politique de Washington, je pense qu'elle est encore un peu floue et elle va peut-être beaucoup changer, parce que tout porte à croire, on en reparlera le moment venu, qu'aux élections les midterms, donc en novembre, quand donc la Chambre des représentants dans sa totalité va être renouvelée et quand à peu près la moitié des sénateurs et des gouverneurs et tout seront renouvelés, probablement les démocrates n'auront plus la majorité au Congrès. Bon. Ah, donc à ce moment-là, il y aura une probable inflexion de la politique. Et je vais en venir à parler d'un petit pays qu'on a déjà évoqué il y a quelque temps, mais qui là est venu à la une des médias parce qu'il s'est passé des événements qui sont effectivement spectaculaires. Il s'agit du Sri Lanka. Sri Lanka, vous savez, c'est donc le nouveau nom d'une île qui s'appelait Ceylan, classiquement. Une île qui compte une population de 22 millions d'habitants.
Au sud de l'Inde.
Enfin, au sud de l'Inde, tout près de l'Inde, puisqu'il y a 60 km dans le détroit qui la sépare de l'Inde. Et c'est un pays, c'est une grosse île, c'est-à-dire la taille, en gros, c'est deux fois la taille de la région Provence-Côte d'Azur. Voilà, c'est à peu près ça.
D'accord, c'est là.
Oui, c'est un peu plus... Voilà. Et donc, ce pays-là vivait relativement heureux, on n'en parlait pas beaucoup. Et puis là, il est arrivé à la une des médias internationaux, puisque à la suite de toute une série de manifestations de mécontentement populaire qui durent depuis des mois et des mois, le président de la République s'est enfui. On ne sait pas où il est, d'ailleurs.
En Amérique.
Alors, on ne sait pas où il est. Mais d'ailleurs, alors, il est peut-être en Amérique. Et il faut savoir que ce monsieur, pour être élu président de la République, avait abandonné sa deuxième nationalité parce qu'il avait une carte, il avait la nationalité, il avait deux nationalités. Donc, pour être un peu plus populaire et un peu plus sri-lankais, il avait abandonné la nationalité américaine. Bon, là, peut-être il l'a retrouvé. Enfin, on ne sait pas où il est. Mais dans la foulée, le Premier ministre, lui, on sait où il est, il a donné sa démission. Mais la démission... Suite à la disparition du président de la République, qui s'appelle M. Gotabaya Rajapaksa, et la démission du Premier ministre lui-même, ne seront officielles que demain. Donc on est dans une période d'incertitude où effectivement le pouvoir est en gros vacant. Le président de la République, on ne sait pas où il est. Le Premier ministre a présenté sa démission, donc il n'exerce pas ses fonctions, sauf le maintien minimum de la présence. Qu'est-ce qui se passera demain? C'est pas du tout clair.
De toute façon, en Israël, vous avez la double nationalité, israélienne et américaine.
Systématiquement. Là, je ne pense pas que c'était le cas au Sri Lanka.
Mais bon, les pouvoirs politiques, je parle.
Alors, je reviens. Donc, qu'est-ce qui a engendré cette situation-là? C'est que le Sri Lanka, comme beaucoup de pays de cette zone-là du monde, et beaucoup de pays, disons, pour faire simple, du tiers-monde, mais l'expression n'a plus beaucoup cours, c'est un pays qui s'est beaucoup endetté pour accélérer son infrastructure, se développer, etc., qui a profité beaucoup de gros investissements chinois pour des ports, pour des aéroports, pour des bâtiments publics, etc., donc il y a des dettes. qui a des dettes et qui en a tellement qu'au début, au printemps de cette année, il a dit qu'il n'arrivait plus à rembourser sa dette. Et donc il était en train d'aller quémander, ça se fait assez classiquement, auprès de ceux qui veulent bien donner encore de l'argent, disant « je ne peux pas rembourser, mais donnez-moi encore un petit ballon d'oxygène avec de l'argent en plus ». Et là, les institutions américaines, je dis ça pour faire simple, mais dont le siège est à Washington, donc la Banque mondiale et surtout le FMI, ont dit non. On dit non simplement pour punir le gouvernement sri-lankais de la famille Rajapaksa des trop bonnes relations que ce pays commençait à entretenir avec la Chine. Et donc ils ont dit non, c'est pas possible, on a déjà beaucoup avancé, il faut rembourser. Et donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où donc, il n'y a plus été possible donc, de trouver d'autres créditeurs, le gouvernement du Sri Lanka, donc le président et son premier ministre, ont décidé de ne plus payer les intérêts, de ne plus rien rembourser. En disant bon, on est coincé, on rembourse rien. La conséquence de ce refus de payer, c'est qu'ils ont décidé de ne plus rien acheter à l'étranger, puisque sachant qu'ils n'auraient pas d'argent, plus personne allait leur vendre qui du pétrole, qui du riz, qui tout ce que vous voulez. En disant, ils ne payeront pas, donc ce n'est pas la peine. Donc on s'est trouvé dans une situation où les biens de consommation courante, le carburant, la nourriture, tout ça, se sont trouvés de moins en moins abondants et de plus en plus chers, parce que, bien entendu, il y avait des stocks, et les petits malins qui avaient des stocks profiter de l'annonce de la disparition des fournisseurs étrangers pour faire monter les prix. Alors le phénomène est connu, on l'a à peu près partout dans le monde maintenant. Donc augmentation des prix des carburants, augmentation des prix des denrées alimentaires, et pratiquement depuis le mois d'avril, date de la démission du Premier ministre, qui était le frère du président, je précise, hein, il s'agissait de M. Mahinda Rajapaksa, hein, le président s'appelle Gotabaya Rajapaksa, hein, donc il avait mis quelqu'un d'autre, le président a mis quelqu'un d'autre, c'est les deux frères, hein, c'est les deux frères. Il faut savoir que cette famille est tellement puissante qu'au début de l'année 2022, il y avait 6 membres de la famille Rajapaksa qui étaient ministres. Ils avaient le ministère des Finances, ils avaient le Premier ministre, ils avaient la présidence de la République et tout. Bon, et alors, ça explique un peu que devant la rareté et le prix des biens de consommation courante, la population de Sri Lankais est manifestée, et elle manifestait jusqu'à envahir le palais présidentiel. Alors, pas violemment apparemment, mais ils disaient « va-t'en hein, ». On connaît le slogan « que se vayan todos, barre-toi », etc., etc., etc. Bon, ça a produit cet effet-là. Qu'est-ce qui va se passer après ? Alors la famille Rajapaksa, c'est à plusieurs étages, parce que là, l'étage dont je vous parle, dans Gotabaya et Mahinda, c'est des gens qui ont 60-70 ans. Il y a un étage inférieur, parce que ça se fait de père en fils, c'est un vrai clan bien bien organisé. Et donc il y a le neveu du président qui a déjà dit « mais moi, j'ai rien à me reprocher, mais je fais partie de ceux qui savent comment ça marche le Sri Lanka, et donc je suis candidat à la succession ». Et personne n'est allé le pendre. Hein. Donc on ne sait pas du tout comment ça va se passer. C'est le neveu du président. Hein, et déjà, lui, c'est affiché. Il dit, je suis là, on connaît le business, on sait faire, on a trempé. Hein. On sait à qui il faut faire plaisir, on sait à qui il faut faire de la peine, etc. On connaît. Bon, continuez à nous faire confiance. On est là. Pratiquement, la famille Rajapaksa est au pouvoir depuis les années 2005. Ils sont passés partout, puisque l'actuel... celui qui était Premier ministre jusqu'au mois d'avril avait été président de la République 2 fois, donc le fameux Mahinda, et quand il avait fini ses 2 mandats, il avait dit « Ah, ben, je respecte la Constitution, je deviens Premier ministre ». Et c'était son frère qui avait pris la présidence. Et comme ça, bon, c'est une famille vraiment bien, bien, bien organisée, on voit. Hein, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, la position du Premier ministre qui est encore là, qui est intérimaire, enfin, qui est là pour jusqu'à demain, vraiment, c'est dire, maintenant, il faut un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire que tous les partis, il y a des partis d'opposition au Parlement à Colombo, se mettent d'accord pour sortir le pays de l'ornière. Alors là, c'est intéressant comme débat politique, parce qu'il y a un débat politique, il y a des gens qui disent qu'ils s'en aillent tous, mais qu'est-ce qu'on met à la place ? Et d'autres qui disent ben, le gouvernement d'Union nationale, c'est probablement un passage obligé, parce que pour l'instant, on n'a rien d'autre à se mettre sous la main. Alors c'est assez intéressant, parce que c'est un débat un peu théorique qui là est à chaud, hein, parce que ça se joue dans des jours de misère, des jours difficiles, des jours d'émeute, pour savoir si, en mettant tout le personnel politique à la porte, on construit un pouvoir politique capable, fort, organisé, ou si on est obligé d'en passer quand même par les partis existants, quoi qu'on ait à dire sur leur qualité, pour qu'il n'y ait pas un siège vide. Ça, c'est une vraie question de politique qui se pose dans tous les pays du monde tout le temps. C'est-à-dire, est-ce qu'une insurrection populaire a les capacités, elle, aujourd'hui, est-ce qu'elle a les capacités de fabriquer un pouvoir? Est-ce qu'il y a des gens organisés pour dire on prend la place, on connaît le travail et on va prendre le pouvoir? Ou bien on prend les forces politiques telles qu'elles sont et on essaye de leur dire faites un effort pour nous sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Alors c'est un débat qui a des échos théoriques assez amusants, mais très anciens. Un débat entre une position, j'allais dire, trotskisante, en disant ben, « qui s'en aille et le peuple prend le pouvoir bon. ». Et puis une position qui est plutôt... Alors il y a dans la chambre à Colombo un parti maoïste qui dit « on les met à la porte et comment on fait le lendemain matin? Qui est-ce qui gère les affaires ?» etc. Et qui dit « non, c'est un passage par lequel il faut passer. Après, si les forces constituées veulent une orientation beaucoup plus socialiste, ça s'appelle la République socialiste du Sri Lanka, en plus de le titre. »
Mais ils ne peuvent pas faire un gouvernement de transition ?
Ben, ça sera ça. Mais d'Union nationale, tous les partis qui sont représentés au Parlement seront dans le gouvernement.
Voilà, ouais.
Gouvernement un peu de salut public, minoritaire, temporaire, avec des mandats.
La famille.
Voilà. Alors il y aura sans doute des Rajapaksa, mais pas que ça, quoi. Pas que ça. Donc, débat intéressant que je vous livre parce que il est. Alors je souhaite qu'il aboutisse, parce qu'il faudrait que les Sri Lankais puissent manger à leur faim, qu'ils puissent être soignés. Voilà, il nous reste 3 minutes, mais on va en faire le meilleur usage. Allez. Alors, je vais vous le dire un mot sur quelque chose qui a été relevé concernant un épisode de l'histoire de France assez particulier, qui est relatif à ce qu'on appelle les accords de Munich. Vous savez que ce qui se passe donc en 1938, c'est que le gouvernement, le Premier ministre, enfin c'était alors, ça, le président du Conseil, M. Édouard Daladier, et le Premier ministre britannique, M. Chamberlain, vont à Munich rencontrer Adolf Hitler et lui donne en gros la carte, le feu vert pour qu'il envahisse comme il souhaitait le faire. Il l'avait déjà demandé, il l'annonçait, pour envahir la Tchécoslovaquie. Au prétexte qu'il y avait dans une partie donc la plus occidentale de la Tchécoslovaquie une minorité de langue allemande. Et donc, dans le cadre du programme nazi, tous les gens qui étaient germanophones devaient être intégrés dans l'Allemagne. Ce qui fut fait, d'ailleurs, le feu vert est donné. Et donc, effectivement, tout de suite après, l'armée nazie envahit la Tchécoslovaquie. Donc la Tchécoslovaquie n'existe plus en tant que telle. Bon. Et donc, on a appelé ça les accords de Munich. Et il y a encore dans le vocabulaire français les Munichois, ceux qui laissent les fascistes faire leur travail et ceux qui s'y opposent. Et il s'est passé un incident assez étonnant. C'est que vous connaissez sans doute la chaîne parlementaire. La chaîne parlementaire fait une émission consacrée à Munich, aux accords de Munich. Et elle dit, et deux des historiens qui ont été invités à la table ronde qui suit le petit documentaire introductif, disent qu'il n'y a que 4 députés qui ont voté contre les accords de Munich. Or, c'est un faux historique. C'est un faux historique puisqu'il y avait 4 députés, effectivement, un socialiste et 2 de droite ou 3 de droite, mais il y avait aussi 73 députés communistes qui ont voté comme un seul homme contre les accords de Munich. Voilà. Et simplement, l'émission a fait comme s'il n'existait pas. Donc ça a donné lieu à des protestations et Mme Annie Lacroix-Ri s'est permis d'écrire donc au président de la chaîne parlementaire en disant « c'est une faute professionnelle grave. Vous ne pouvez pas à l'Assemblée nationale, alors que vous avez toutes les archives, vous avez l'état du vote, le jour du vote, l'heure à la minute près avec tous les noms des gens qui ont voté, vous n'avez pas le droit sur la chaîne du Parlement, vous mettez en cause l'honneur du Parlement de raconter une contre-vérité historique ». Et au passage, ça permet de situer un des 2 historiens qui était comme témoin invité par la chaîne parlementaire, qui s'appelle M. Olivier Dard, et qui est un soutien permanent, qui alors, c'est pas un historien, c'est un soutien de l'Action française, qu'il revendique, il est invité, c'est son milieu. Donc pour M. Olivier Dard, soutien de l'Action française, maurassien, les partis communistes sont des gens qu'il faut tuer, c'est tout. Voilà, c'est ça qui explique le dérapage. Bon. Et je vous dirai, non, je pense la prochaine fois, quelques mots sur la Bolivie, quelques mots positifs sur la Bolivie, parce que la Bolivie va mieux et les Argentins, dont la monnaie est en train de s'effondrer, prennent de l'argent, viennent changer leur peso argentin dans la monnaie bolivienne parce qu'elle est stable. Pourquoi elle est stable? Je vous en parlerai la semaine prochaine. Merci Aïcha et à demain soir pour l'émission sur les oligarques ukrainiens. Ouais.